Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler des arrestations extrajudiciaires sous la transition. On va aussi interroger la gouvernance de la transition, où va la transition, l'avenir de la transition et des questions que nous allons aborder avec notre invité. Docteur Mamadou Konaté, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Docteur, on vous appelle communément Amina. Amine,
hein, pour les intimes.
Pour les intimes, hein, docteur Mamadou Konaté, écrivain et analyste politique, universitaire, auteur de 3 ouvrages. Ce soir, vous portez bien?
Ça va, Dieu merci. Comme tous les Maliens, on fait avec. Et on espère le meilleur.
Okay. Amine, docteur Mamadou Konaté, première, le thème, c'est les arrestations extrajudiciaires, mais on pourra parler aussi de l'ensemble des questions d'actualité. Première question, est-ce que vous avez les nouvelles de vos camarades qui sont détenus? Est-ce que vous avez les nouvelles de vos camarades de la déclaration du 31 mars?
Oui, j'ai des nouvelles à travers quelques délégations dépêchées auprès d'eux dans les différentes prisons où ils sont détenus provisoirement avant leur jugement. Donc innocents. À Koulikoro, mais aussi à Kenyuruba et Douila. Et globalement, ils sont bien traités. Sauf qu'à Douila, nous avons quand même des informations alarmantes sur les conditions de nos camarades qui sont détenus là-bas. Donc c'est le lieu d'inviter les autorités judiciaires à y voir de plus près.
Okay. Douila, comment se déroulent les conditions de détention de vos camarades? Les infos que vous avez?
Ces infos sur lesquelles ne sont pas bien traitées. Je vais me garder d'aller dans le détail parce que je ne suis pas allé moi-même. Okay. C'est des camarades qui me l'ont rapporté. Donc je souhaite vraiment me limiter à cette impression d'ordre général. Okay. Et inviter sauté judiciaire, un pénitentiaire, à y voir de plus près. Aucun détenu de surcroît innocent ne doit être détenu dans des conditions infrahumaines, des conditions en tout cas désagréables. Et, je l'ai dit, hein, à Kenyuruba et à Koulikoro, ils sont bien traités là-bas. Donc pourquoi Douila ferait une différence?
Okay.
Tout ce que je peux dire, c'est de regarder comment ils sont traités, leurs conditions de détention, l'environnement dans lequel ils dorment, et les rapports avec les gardes pénitentiaires. Voilà, de faire ce qu'il faut.
Qu'est-ce que vous savez de l'affaire?
Alors, d'abord, il faut le dire, hein, je n'étais pas là quand cette situation advenait. J'étais à Sikasso une semaine avant la fête. C'est là-bas finalement que j'ai fait. C'est chez moi, mes parents y vivent. C'est là-bas que j'ai grandi. C'est ma ville de cœur. C'est précisément où mon père a toute l'histoire de ses ancêtres, entre une bonne partie. Et ce que j'ai appris, je savais un peu les circonstances dans lesquelles la rencontre durant lesquelles ils ont été pris devait se dérouler. C'était d'abord une réunion privée, une réunion formelle, pourrait-on dire, convoquée par la conférence des présidents de l'unité d'action que nous avons formée le 31 mars 2024. j'espère que vous vous en rappellerez, oui. Peut-être que nous en reviendrons, pour échanger autour de deux questions fondamentales. La première, c'est l'organisation de notre unité d'action, et puis, accessoirement, la situation politique nationale. Bon, finalement, c'est des questions qui arrivent d'elles-mêmes.
Okay.
Au niveau de l'organisation de notre mouvement, il y avait deux objets. C'est d'abord le plan d'action, le projet de plan d'action et le projet de climat intérieur que vous avez discuté. Et cette réunion privée devait se tenir chez Moustapha Diko.
Donc voilà. Vous avez les informations de cette réunion?
Oui, bien sûr. Okay. Enfin, je l'ai dit, j'étais au courant de les circonstances.
Ok, ok.
Voilà. Allez-y. Ouais. Voilà, parce que tous les présidents étaient invités. Okay. Moi, je viens de passer la main.
Mais pourquoi vous êtes trouvé à Sikasso? Est-ce que c'était pour vous une raison de ne pas participer à la réunion? Non,
je viens de vous dire que j'étais une semaine avant la fête. Voilà, pour être auprès des parents. C'est là-bas que j'ai fait.
Oui, je sais.
C'est juste pour la fête. C'est tout.
Mais la réunion était prévue juste après la fête, non?
Non, la réunion était prévue avant la fête. Elle était prévue. C'est-à-dire qu'on a convenu avant la fête qu'on se réunirait chez le camarade Moustapha Diko 4 jours après la fête, jeudi. Voilà. Et depuis cette réunion, j'avais dit que je ne serais probablement pas là. Voilà. Depuis cette réunion-là, j'ai dit que je ne serais probablement pas là. Parce que je vais fêter à Sikasso et bon, j'y reste quelques jours pour. Voilà, pour me reposer.
Mais vous allez adhérer aux conclusions de la réunion, certainement.
Mais bien sûr. Et puis, bon, on savait déjà de quoi il s'agissait. Et puis, pour vous dire tout, enfin, pas tout, pour dire vrai, peut-être oui, l'essentiel, il y avait des débats déjà en cours au niveau de chaque organisation membre. Okay. Par exemple, nous, MC Malikwa, nous n'étions pas à l'aise avec beaucoup de choses qui étaient dans les projets de plan d'action et même dans le projet intérieur. Ce n'est pas un secret. Enfin, C'est comme ça, c'est un mouvement, c'est une unité d'action donc pluriel. Les gens viennent d'horizons divers.
Mais qu'est-ce que vous reprochiez au plan d'action? Quels sont les éléments du plan d'action?
Peut-être avant d'arriver à.
N'emportez pas votre conviction, oui, allez-y.
Oui, avant d'arriver à ça, c'est. Donc le jour, le 20 juin, donc les camarades se sont retrouvés ainsi chez Moustapha Diko. Okay. Donc pour tenir la réunion privée. Et. C'est aux environs de 19h, en tout cas, vers la fin de cette réunion, que les gendarmes sont rentrés dans la maison et ont demandé aux camarades de les suivre. Voilà. Et ils sont rentrés sans autorisation. Et ils n'avaient aucun mandat d'aucun magistrat pour demander aux camarades de les suivre. Et c'est comme ça qu'ils ont été transportés à la gendarmerie. Voilà,
D'accord. Oui, une autre question. C'est-à-dire, quand l'opinion avait appris cette nouvelle, vous, depuis Sikasso, il y avait un vocal là qui avait fuité certainement où vous semblez dire que c'est une réunion, vous l'avez dit, c'est une réunion privée, mais au même moment, vous dites aussi que les activités des partis politiques sont suspendues. Cette position ambiguë a un peu fait douter un peu de votre position. Voilà. Pardonnez-moi la
tautologie. Oui, non, je comprends, j'explique, c'est très simple. Il n'y a pas de contradiction du tout. En fait, c'est parce qu'il y a un décret portant suspension des activités des partis politiques que nous avons d'ailleurs attaqué en justice. Okay. Donc, dont nous disputons le bien fondé. D'accord ? C'est parce qu'il y a ce décret que nous avons fait cette réunion à domicile, dans un domicile privé, dans un endroit clos. Okay. Parce que nous savons que la loi protégeait ces types de rencontres. Okay. Il y a une ordonnance numéro 36, je oui. pense, voilà, que vous savez, de 59,
oui.
portant loi
oui.
voilà, sur la liberté de réunion,
oui.
et visée dans le décret du 10 avril. Okay. Honnêtement, c'était la première fois que je rencontrais cette ordonnance. C'est à partir de ce décret okay. que j'ai découvert le contenu de cette ordonnance. Parce que moi je lis les visas okay. et je vérifie les visas. Parce que quand j'ai vu la suspension, je me suis dit, mais attendez, le président n'a pas ce droit. Okay. Donc je suis reparti regarder la charte des partis politiques. J'ai vu qu'il n'a pas le droit, effectivement.
Okay.
Il n'a même pas qualité à le faire.
Ouais.
Alors j'ai pris chaque visa. Regardez, mais où est-ce que le président tirerait cette habilitation? Et je l'ai trouvé nulle part. C'est comme ça que j'ai découvert l'ordonnance.
Okay.
Et je trouve au contraire que l'ordonnance garantissait l'inviolabilité des réunions privées. Alors, pour être réunion privée, l'article premier vous donne les critères. Okay. Il faut que ce soit peut-être dans un endroit clos. Mm-hmm. Ben, il faut que ce soit...
résume, hein, cette réunion de vos camarades était purement privée. C'est une réunion privée.
Oui, absolument. Donc, vous êtes protégé par la loi.
Protégé par la loi.
Il n'y a pas de contradiction avec, avec le décret.
Maintenant, que vous apprenez après qu'ils ont été arrêtés pour les tentatives de déstabilisation des... Pour vous, cet argument ne tient pas.
Mais pas du tout. Okay. C'est là où je vais vous parler du contenu des documents qu'on a trouvé chez eux. Non, je pense que c'est exagéré, ça ne tient pas debout du tout. Le plan d'action, comme vous le savez, c'est un répertoire de projets d'action que nous devions mener ensemble. Si nous en convenons, parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas d'accord sur tout ce qui est dans le projet de plan d'action. Okay. Quand vous regardez, pour ceux qui ont, j'ai vu que ça circulait, ceux qui ont eu ces plans d'action, vous voyez, c'est écrit proposition d'activité. C'est un projet, on n'a pas encore validé. D'accord. Et à cette réunion, il y a des gens qui ont émis des réserves, qui ont demandé à ce que certaines choses soient revues, d'autres qui ont dit, carrément qu'on abandonne l'idée des règlements intérieurs. Par exemple, ce n'est secret pour personne que le M5 Malécois est opposé, par exemple, à l'adoption des règlements intérieurs. Donc c'était un débat en cours, donc peut-être qu'il devait être, qui devait se continuer chez M. Sadiko.
Oui, mais vous...
vous faites la revue, j'ai fait la revue des activités, il n'y a rien, en tout cas, même en l'état, de déstabilisatrice des institutions. Okay. Mais pas du tout. C'est pas avec un plan d'action, un projet de plan d'action et un projet de règlement qu'on va faire un coup d'État. En fait, non. Enfin, sérieux, mais c'est pas vrai, ça. Le règlement intérieur, rien à voir. Ça, c'est par rapport à l'unité d'action, comment elle va être organisée, les réunions, comment elles vont se tenir, qui va assurer la présence, tout le monde.
Oui, sur cette base-là, vos camarades ont été arrêtés et maintenant, ils ne sont pas en liberté, ils sont détenus, vous l'avez dit, dans différentes prisons du pays. Vous, parti politique, signateur du 31 mars 2024, signateur de la déclaration du 31 mars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait?
Nous ne sommes pas tous partis politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique.
Oui, mais le reste, vous êtes quand même... vous faites partie des...
Oui, mais il y a des associations parmi nous, des personnalités indépendantes parmi nous.
Maintenant, qu'est-ce que vous faites?
Voilà. Donc, nous sommes partis signateurs de la déclaration du 31 mars 2024. Oui. Alors, nous avons...
Vous étiez engagé là-bas au nom du M5 RFP Malécois, non? Bien, vous étiez là-bas à la signature.
Mais bien sûr, au nom du M5 Malécois. Okay. M5 Malécois est une plateforme d'organisation diverse, politique, puis la société civile.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites?
Donc, nous avons commis un certain nombre d'avocats pour défendre nos camarades. Voilà, un pool d'avocats pour défendre nos camarades. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui, et je les remercie de passage, ont proposé les services pro bono, vraiment, volontairement, gratuitement, pour la défense de la liberté et des droits fondamentaux. Donc, qu'ils en soient remerciés. Et je sais qu'ils ne l'ont fait pas pour être cités, ils l'ont fait parce qu'ils y croient, parce qu'ils pensent que c'est la liberté de tous qui est menacée, voilà, qui ne font que leur devoir. Et maintenant, en sus de ça, nous aussi, les différents camarades, nous sommes organisés, vous l'avez dit, il y a des visites qui ont été rendues aux camarades, mais également des contacts qui sont en train d'être pris. Voilà, individuellement, mais aussi en groupe avec d'autres acteurs de la classe politique, mais aussi la société civile, voilà, pour échanger ensemble sur les meilleures approches à adopter pour obtenir la libération de nos camarades. La priorité, j'ai envie de dire, l'option numéro un, en tout cas privilégié, c'est que les autorités abandonnent purement et simplement ces poursuites. Okay. Voilà, qui ne sont, à nos yeux, pas fondées du tout, ni du point de vue du droit, ni d'aucun point de vue. Okay. Voilà, ni politique, ni morale, ni rien du tout.
Donc pour vous, ils sont arbitrairement détenus.
Nous l'avons dit dans nos communiqués. Nous l'avons dit dans nos communiqués. Et bien sûr, l'option numéro 2, bien sûr, c'est... évidemment, de faire en sorte que le droit soit dit lorsque nos camarades seront amenés devant les juges.
Est-ce que vous avez des nouvelles sur le procès, non? Une date?
Alors, il n'y a pas de date, à ma connaissance.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il fasse plus de temps en prison avant de voir le juge, si vous ne faites rien?
Je n'appréhende pas cela. Je ne le souhaite pas, ça va sans dire. Et puis... Vous savez, je regarde un peu, j'analyse la situation même politique nationale. Moi, je parle dans l'intérêt de mes amis, de gouvernants qui sont là, des autorités en place. Je parle dans l'intérêt. À quoi bon, à quoi servira voilà, de maintenir nos camarades en prison? Et je comprends votre question. Et de faire traîner indéfiniment le procès. Okay. Pourquoi? Pour quel but?
Voilà. Du moment où vous dites qu'ils sont innocents, et puis on les prend tout de même. Donc est-ce que vous devez être encore surpris, vous, par encore la démarche?
Alors, il y a deux choses ici. Il y a ceux qui les ont pris et ceux qui vont les juger. Voilà, des choses ici. Donc c'est la gendarmerie. On nous a dit qu'elle a été réquisitionnée. C'est réquisitionné par la sécurité d'État.
Okay.
Voilà, pour faire ce travail. Et qui a mis nos camarades à disposition
de la
justice.
Qu'est-ce que vous attendez de la justice
Non, mais la justice, ouais. Voilà, la justice, c'est notre pan. C'est à la justice maintenant de, je l'ai dit, de dire les droits. Si jamais les poursuites ne sont pas abandonnées. De constater que d'abord, nos camarades ont été arrêtés sans mandat. Donc, un vice de procédure. Donc, pas dans les conditions prévues par la loi, du tout. Qui peuvent, à elles seules...
La procédure,
tout simplement.
Il y a Bachelet aussi, avocat, qui bénéficie de son statut d'avocat, qui recouvre la liberté. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un vice de procédure?
Ah, mais évidemment, aussi, hein, mais tout à fait, procédure. Oui, mais bien sûr.
Voilà, les charges
vous avez très bien fait de le signaler, absolument, parce qu'on n'arrête pas un avocat comme ça. Tout comme on n'arrête pas un agent de la sécurité d'État comme ça. Voilà. L'ordonnance qui a créé la sécurité d'État en 2021 a prévu. Bien sûr, une position spéciale pour pouvoir arrêter un agent de l'Agence nationale de la sécurité d'État.
Okay. Donc, vous allez les rendre visite quand? Non,
très bientôt. Moi, je suis arrivé hier seulement à Bamako.
Oui.
Donc, j'ai pris attache avec certains camarades. Nous organiserons et bien sûr,
il y a quelques internautes ont réagi et ont donné quelques. On va lire quelques questions d'internautes sur cette thématique. Aboubacar Sidik Sanogo vous pose directement cette question. Pourquoi vous n'avez pas été à la réunion de vos camarades politiques arrêtés? Voilà, êtes-vous. Il était réellement en voyage, comme il le fait croire, ou bien il avait l'information de leur arrestation? C'est une question d'Aboubacar Sidik Sanogo. Vous pouvez déjà répondre à cette question.
J'ai déjà répondu.
À cette question.
Bon, je pense qu'il y a une insinuation très maladroite, mais bon, je mets ça au compte du fait qu'il ne me connaît pas. Voilà, moi, je ne peux pas avoir cette information et la garder pour moi et puis laisser mes camarades se faire prendre. En fait, c'est quand même insulter ma sincérité, mon honnêteté. Mais bon, je mets ça au compte de ça et on ne se connaît pas. Bon, il peut penser comme ça.
Coco, le leader, voilà, deux questions. La raison d'État permet-elle à l'État de porter atteinte à la vie des citoyens alors que la Constitution, dans ses dispositions, dit que la personne humaine est sacrée et inviolable? Première question. La sécurité d'État, dans son format actuel, est-il un service au service du peuple? Est-ce qu'il y a une restriction aux interventions de la sécurité d'État, nouvellement dénommée ANSE?
Alors, commencez par la première.
Oui. La raison d'État.
La raison d'État.
Permet-elle de porter...
Je pense que lui-même, il a répondu à la question.
À la vie des citoyens.
Il dit que la Constitution, qui est la loi suprême de la nation, au-dessus de tous les citoyens, au-dessus de tous les textes, consacre l'inviolabilité de la personne humaine. C'est lui qui l'a dit. Donc, il n'y a pas de raison d'État qui veille devant... la consécration de ses droits fondamentaux. La raison d'État, ce n'est pas un concept creux dans lequel on met ce qu'on veut juste pour passer sa journée. Ce n'est pas ça. Okay. Donc, obéir, bien sûr, aussi à des critères.
Est-ce que vous êtes en train de dire que l'État de droit est en danger, l'État de droit?
Non. En fait, on n'est pas dans un État de droit. Moi, je l'ai dit ici, sur votre plateau. Ça, c'est connu, ça. Nous ne sommes pas dans un État de droit. Et je ne pense pas que les autorités même le prétendent. Nous ne sommes pas une démocratie. Okay. Mais c'est clair, nous sommes dans une... Les gens continuent. Ici, je l'ai dit, écoutez, nous sommes dans un état d'exception, sous une forme un peu confuse. Voilà, parce que l'État est géré comme si nous sommes dans un état d'exception. Mais d'autre part, les textes sont votés, les textes sont... reconduit comme si on est dans un retour à l'ordre constitutionnel normal. Ouais. Vous avez vu le référendum, l'adoption du plan de constitution, mais vous avez beaucoup d'autres lois qui n'ont jamais été suspendues, donc notamment même nos codes pénaux, que ce soit le code pénal ou le code procédure pénale. Ouais. Et donc, quelque part, ça met les citoyens dans une certaine confusion. Okay. Les gens se disent, écoutez, nous sommes dans une démocratie, puisque les textes le disent. Okay. Nos droits fondamentaux sont garantis par la Constitution. Ouais. Vous voyez, la charte des partis politiques est là. Mm-hmm. Et donc, des droits qui sont clairement définis. Ouais. Donc, on doit les utiliser. Nous devons en jouir. Et les autorités publiques, à chaque sortie, évidemment, même à l'adoption de chaque texte, visent ces différents textes. Okay. Donc les citoyens sont en droit de revendiquer ce qu'on prétend leur donner. D'accord. Mais d'autre part, dans la pratique, on voit que, à des moments, on porte atteinte, bien sûr, à ces droits garantis par ces textes, et en violation des procédures établies, et impunément. Voilà, donc c'est pour ça que moi je dis en conclusion que l'état d'exception dans les faits malheureusement continue. Mais l'état d'exception ne veut pas dire l'état de non-droit. J'ai dit on n'est pas dans un état de droit, mais ça ne veut pas dire non plus que nous sommes dans le désordre, dans la tyrannie, on fait ce qu'on veut. Un état d'exception ne peut être viable que s'il y a un minimum d'état de droit. J'ai envie de dire l'état de droit résiduel. C'est un minimum de corpus juridique qui balise un peu l'exercice de pouvoir durant cette période-là. Okay. Et c'est pour cela que, même après les coups d'État, les putsch, etc., la transition qui s'ouvre par une transition, il y a généralement un acte fondamental, on comprend. Parce que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas gérer les hommes vraiment sur le désirata, sur des coups de cœur, des coups de tête.
D'accord. Guida Landouré dit... il vous pose cette question, que pense-t-il?
La deuxième question, je crois qu'on en parle.
Oui, la deuxième question, la SE, dans son format actuel, est-il un service au service du peuple?
Alors, encore une fois, dans le texte, c'est un service national. Ouais. Voilà, c'est l'article, je crois, premier de l'ordonnance qu'il a créé, qu'il dit. C'est un service national donc, pour le peuple. Et dans ce même texte qui crée l'Agence nationale de la sécurité d'État, le dit, je pense, dans son article 7, connaissant ses articles, que les missions de cette sécurité d'État sont exercées dans les limites de la loi, enfin, dans les conditions ou dans le respect des textes de loi. Okay. C'est écrit dans l'ordonnance.
Il ne doit pas avoir des violations des droits des citoyens.
Ouais, évidemment.
Mais qu'est-ce que vous pensez quand souvent on a des arrestations extrajudiciaires, il y a sans mandat, des gens disparaissent, on les enlève, et puis personne ne parle. Oui, qu'est-ce que ça vous fait, vous,
en tant que praticien? Je ne sais pas, je me pose des questions. Est-ce que c'est dû à une mauvaise... d'abord, à un manque d'information sur le cadre juridique de leurs activités? C'est des citoyens comme nous, c'est des êtres humains comme nous, ça peut arriver. Ou à une mauvaise compréhension de ce qui
est. Mais la sécurité de l'État a toujours existé. Ce n'est pas sous la transition qu'elle se réinvente, elle a toujours existé. Mais c'est sous la transition qu'on voit des pratiques pareilles.
Ah non, moi je pense que même avant la transition, il y a des actions extrajudiciaires. Oui, ça n'a pas commencé avec la transition.
Oui, mais avec la transition, sous la transition, oui, les arrestations extrajudiciaires se multiplient.
Écoutez, je n'ai pas fait la statistique, mais c'est déjà suffisant d'observer qu'il y en a. Parce que cette transition, moi j'attends beaucoup. Enfin, il y a transition encore, parce que nous l'avons dit. Okay. La transition est finie, enfin, nous sommes dans autre chose. Donc, mais j'attendais beaucoup de la transition, et j'attends beaucoup des autorités en place. Okay. Oui. Moi, j'espère encore qu'elle peut faire mieux que les régimes que nous avons connus par le passé. Donc je ne justifie pas leurs insuffisances par les insuffisances des régimes précédents. Okay. Au contraire, les insuffisances déjà connues doivent inspirer les autorités actuelles à ne pas les reproduire. Okay. Donc à être elles plus respectueuse des droits et libertés fondamentales des citoyens.
Mais qu'est-ce que vous pensez, la réalité sur le terrain,
quel est votre constat? On a encore du chemin à faire.
Quel est votre
constat? Je viens de le dire, je me pose des questions. Je me demande si le cadre juridique
Est-ce que vous devez vous demander ça en tant que juriste?
Mais il va me demander, bien entendu.
On doit enlever des citoyens comme ça.
Non, je ne suis pas en train de dire que c'est justifiable. Mmh. C'est deux choses. Attention, je l'ai dénoncé, j'ai dit que ce n'est pas juste. Mmh. Les citoyens ont des droits qui sont reconnus par les textes, mmh. et puis qui doivent être respectés. D'accord? Et si jamais l'État a envie de restreindre ses libertés, je l'ai dit, même sur votre plateau, pourquoi ne pas voter une loi spéciale pour imposer ces limites-là? Okay. Comme ça, tout le monde est averti. D'accord. Mais jusqu'à ce qu'on ait cette loi, ben, ces lois existent, ces droits existent, ils doivent les respecter. Donc, aucunement, on ne peut justifier les arrestations extrajudiciaires. Je l'ai dit, même l'ordonnance qui a créé la sécurité d'État leur interdit ça.
Maintenant, j'ai dit,
c'est insuffisant. Donc, c'est violation, si vous voulez, des procédures. Ouais. Je me pose des questions. Est-ce que c'est fait exprès? D'accord? Donc, juste pour créer la peur au sein de l'opinion, et à quel dessein? Ou est-ce que c'est, on peut mettre ça sur le compte d'une mauvaise information ou même des manques d'informations sur le cadre juridique? Je lui pose des questions par rapport à ça. Donc, c'est deux choses.
Guy d'Alandouré, qui dit que pensez-vous des arrestations d'un pouvoir dit plébiscité par la majorité des Maliens, une peur ou juste une dérive autoritaire?
Et puis, de passage, avant de répondre à ça, moi, je me propose volontaire. Okay. Animer un séminaire d'échange avec notre sécurité d'État, parce que c'est notre sécurité d'État. Okay. Voilà. Elle doit être au service du peuple. Okay. Sur le balisage juridique des activités de la sécurité d'État pour échanger la judiciaire. Peut-être qu'il y a des difficultés qu'ils connaissent et peut-être par rapport auxquelles il serait bon d'avoir, bien sûr, l'opinion d'un juriste là-dessus et une opinion non partisane. Donc, pour les orienter dans la bonne voie. Parce que, je vais leur dire quelque chose. Pour ceux qui ne savent pas, parmi eux, dans cette ordonnance, c'est possible de poursuivre les agents de la sécurité d'État. Oui, pour des arrestations extrajudiciaires. Parce qu'il est dit qu'en cas de flagrant violation de la loi, ils peuvent être poursuivis. Et là, aller prendre les gens chez eux.
Qui doit les poursuivre?
Mais attendez, les victimes peuvent les poursuivre. Mais comme je l'ai dit, la procédure est différente, comme pour toi et moi.
Oui, effectivement.
Ainsi que pour un avocat.
Les victimes vont les poursuivre où?
Mais écoutez, je ne vais pas vous donner ce détail-là.
Les gens
les gens qui ont besoin de ça, qui viennent à mon cabinet ou bien qui demandent un avocat.
C'est pour comprendre. Je voulais peut-être interpeller à ce niveau.
Parce
que si les arrestations extrajudiciaires, la justice garde un silence assourdissant. La justice ne dit rien.
Amener, inviter les syndicats de la magistrature ici sur votre plateau pour débattre de ça. Voilà. Ils peuvent parler. Invitez-les ici. Voilà. Ils vont me donner des détails sur ça. C'est assez déjà de dire aux gens d'aller lire cette ordonnance de 2021 portant création de l'Agence nationale de la sécurité d'État en sigle, ANS, qui est d'ailleurs un bon symbole. Ils verront. Donc, être agent de sécurité, ça ne veut pas dire être intouchable, ça ne veut pas dire avoir des droits illimités ou même le feu vert de faire tout ce qu'on veut, de la liberté des gens. Donc, il y a des conséquences possibles. Okay. Et ça, je pense que ce n'est pas sorcier. Quelqu'un qui est victime.
En parlant des victimes, qu'est-ce que vous pensez du silence aussi des victimes? Des gens sont enlevés.
C'est la peur, en fait.
Et après, ils viennent.
C'est la peur.
Vous faites une semaine, deux semaines, personne n'a de vos nouvelles. Et puis après, quand vous sortez, la première réaction, je dis, ils se portent bien. Est-ce quand même une réaction étrange?
Non. Moi, je pense que tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne dit pas que c'est pour demain. Évidemment, c'est
un. Oui, je parle de.
Il y en a qui sont très intéressés.
C'est ceux qui viennent après le plus souvent. Est-ce que c'est une consigne?
Je ne sais pas.
Il faut dire je m'importe.
Il faut demander ça à ces gens-là. Je ne sais pas.
Oui.
Mais je sais que.
Pourquoi elles ne parlent pas à les victimes?
Je sais que ces arrestations créent la peur. Je pense qu'elles renforcent la peur. Elles créent une certaine psychose.
Mais ça peut même créer des traumatismes, chez certains.
Possible, absolument. Possible.
Des grandes séquelles, des blessures.
Et cette peur qui se généralise. Vous le sentez, vous êtes journaliste. Vous avez du mal à voir les gens. N'est pas bon pour les institutions que l'agence a fait serment de veiller à la sécurité. Cette peur ne les sert pas. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, quelle est notre réaction naturelle? Je ne parle de loi de nature. Hein. Okay. Quand vous avez peur d'un serpent, vous faites quoi? Vous cherchez soit à vous échapper ou à le tuer. Ou à l'éliminer, à éliminer la peur. Donc, quand la peur se gère au sein de la population, le premier grand danger de ça, ça pèse sur les institutions elles-mêmes.
Est-ce que vous sentez que
parce que la peur aussi, quelque part, elle unit.
Est-ce que vous sentez que la peur, elle pèse aujourd'hui sur la population?
Mais je le sens. Je dis, avant même de venir à votre invitation, je lui dis, j'ai tellement de gens qui ont, voilà, qui m'ont appelé, ils ont peur de ceci. Les gens ont peur. Les gens ne veulent même plus qu'on parle. C'est-à-dire qu'on n'ose même dire qu'on n'est pas d'accord avec une mesure prise par les autorités en place. Parce que c'est quelqu'un, c'est la prison, c'est la disparition. Voilà. Moi, je dis que ces gens ne sont pas. N'ont pas le courage de leur amour pour ces institutions, parce que moi, je les aime. Okay. Et quand tu les aimes, tu dois avoir le courage de défendre ce que tu aimes. Mais il faut bien conseiller.
Vous les aimez, qu'est-ce que vous dites à ces institutions-là?
Mais je l'ai dit en privé à ceux à qui je peux parler, et je l'ai dit sur votre plateau. Vous voulez quoi encore?
Vous les connaissez?
J'ai connu certains. C'est pas un secret, ça.
Certains sont vos étudiants, certainement.
Bon, oui, certains, oui. Comme certains sont des co-instructeurs. Enfin, ça, c'est autre chose. Oui, certains sont des co-instructeurs, certains sont des amis.
Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent de ces
camarades?
Qu'est-ce qu'ils vous disent de ces pratiques?
Écoutez, je ne vais pas vous parler de ça.
Illégal, hein?
Je ne vais pas vous parler de ça.
Mais vous en savez.
J'en sais, mais tout ne se dit pas. D'accord? Ça, c'est clair, ça. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est comme ça. Femme bêtée, fortaille. Voilà. Comme une femme bêtée, quête, femme
bêtée. Mais est-ce que ça vous indigne? Est-ce que ça vous choque?
Mais ils le savent. Mais ça me choque. Écoutez, je vous dis, je vais paraphraser quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Cicéron qui l'a dit. Ça m'indigne autant
de voir. Vous n'en parlez pas suffisamment.
Vous pensez?
Oui, mais vous êtes là, vous avez l'occasion de nous dire, puisque vous en savez davantage.
De dire quoi?
Ce que vous savez.
Non, mais je viens de parler de ce que je sais, de la situation de mes camarades, de ce que nous faisons. Mais ça ne vous suffit pas. Vous voulez que je vous dise quoi?
Pratique, vous dites
non, mais vous voulez que je vous parle de confidence entre moi et mes amis? Je ne ferai jamais ça.
Ce n'est pas de confidence.
Non, mais c'est de confidence. Il y a des choses qu'on peut se dire en privé, qu'on ne peut pas dire ça sur la place publique.
Qu'est-ce que vous leur dites?
Mais je leur dis ce que je vous dis ici, pratiquement. En d'autres mots, mais je le dis.
Vous leur dites quoi? Vous n'êtes pas sur la bonne voie?
Non, mais attendez, il y a tout ça qu'on dit entre amis, on le dit.
Vous connaissez les victimes, non?
C'est-à-dire?
Certaines victimes.
De quoi?
Oui, de ces enlèvements, c'est... Voilà.
Mais j'en connais, mais comment elles sont détenues aujourd'hui?
Oui, non, on parle de oui, ceux qui sont détenus de façon extrajudiciaire, c'est vrai, les disparitions et autres. Oui. Oui, mais vous, les camarades, vous n'avez pas encore rendu visite à vos camarades jusque-là.
Je suis arrivé hier.
Mais est-ce que vous n'êtes pas là en train de dire que vous êtes informé, vous êtes peut-être dans un réseau de renseignements?
Non, pas du tout.
Voilà, très...
Non, pas du tout.
Je sais pas.
Pas du tout. Non, pas du tout. Quand je vous ai dit que j'aime ces institutions, je parle des personnes qui les animent. Et c'est au nom de cet amour que je suis franc avec eux. C'est au nom de cet amour que je leur donne des sincères orientations. Voilà. Et quand tu as posé la question, voilà, tu les... Donc je dis oui, je les aime parce que c'est des gens que je connais, évidemment. Je ne nie pas. Moi, je n'ai jamais mes amitiés. Voilà. Il y a des gens avec qui j'ai étudié, c'est des camarades, ça c'est l'histoire, ça. Je ne renie pas. Voilà. On peut ne pas être d'accord sur nos agissements, nos actes, on se les dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'y
rend. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un complot derrière le peuple, hein, sur le dos du peuple?
Parce qu'à dire
en privé, vous êtes d'accord, mais publiquement, il faut dire non, je ne suis pas d'accord.
Qui vous a dit qu'on est d'accord en privé?
Non, je suppose.
Non, mais pas du tout. Vous voulez que je vous dise dans quelle langue? Non, mais je vous dis ça en français, je l'ai dit ce que je pense sincèrement, nous ne sommes pas d'accord en privé. Nous ne sommes pas d'accord.
Et vous êtes ensemble?
Oui, mais comment ça ensemble? Je dis, ce sont des... proche des amis, je ne les réunis pas pour autant. On peut ne pas être d'accord, je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais je peux continuer à aimer ce que tu es. Ta personne a les doux, etc., parce qu'il y a une histoire qui nous unit. Mais ce que tu fais dans ton journalisme, je peux te dire que ce n'est pas professionnel. Et je te l'ai dit, ce que tu fais n'est pas professionnel. Moi, j'ai ce courage de te dire ça. Mais là, tu en fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas dire que je vais refuser de prendre ton téléphone ou bien que je vais discuter avec toi sur autre chose. Ou c'est de la part personnelle d'aller voir des amis, de discuter d'autre chose. Ça peut arriver.
Mais c'est que vous dites là. Parce que là, on parle quand même de vie humaine.
Mais oui.
qui peut souvent être en danger.
Mais oui.
Donc les faits peuvent être graves.
Mais évidemment.
Donc votre silence ne doit pas être un silence.
Non. C'est moi qui suis devant vous pour parler des arrestations extrajudiciaires de mes camarades. J'aurais pu me taire, mon cher. Moi, je m'oblige à le faire, de venir devant vous. Mais pas du tout, au contraire. Il y en a qui ne m'aimeraient pas que je parle de ces choses-là. Pourquoi je viens devant vous pour le dire? On ne me paye pas pour ça. Pourquoi je ne fais pas comme les 99% des jeunes analystes politiques qui ne disent plus rien sur les antennes? J'aurais pu faire pour eux. Non, mais non. Pourquoi je ne fais pas comme eux? Je ne suis pas plus malien qu'eux. S'ils pensent que le Mali va bien, tout va bien, ils n'ont pas à parler, à alerter, à proposer. Moi, j'aurais pu faire pareil. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai une conscience, parce que je sais qu'on peut faire autrement et qu'on doit avoir le courage de le dire, et bien sûr, et en privé et publiquement.
Okay.
Maintenant, il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne peut pas dire en public.
Ouais.
Et ça aussi, je ne le nie pas. Je n'ai fait aucune... voilà, je n'ai aucun complexe à dire ça. Non, il y a des choses qui ne se disent pas en public. On a derrière là, quoi. Tu suis, toi, tu m'appelles chez toi, on va dire des choses, je ne peux pas dire ça en public. Et pareillement. Oui, tu as de l'eau. Donc, on ne peut pas m'arracher des choses. Non, ce n'est pas possible. Ne vous fatiguez même pas. Donc, ce que je dis.
Quand le peuple ne sait pas.
Non, mais le peuple même accepte, parce que c'est le peuple qui fait sa tradition. C'est le peuple qui décide ses valeurs sociétales. C'est lui-même qui décide qu'un homme qui se respecte doit être un homme de parlement aussi, un homme honnête, doit être un homme aussi loyal, doit être un homme qui peut garder un secret. Au Bangal Natala. Ya Fomia. Fin de tes fautes. Femme bête kétaillée, femme bête fautaillée, ou femme bête.
Même si ce secret est d'intérêt public.
Non, mais. Non, si c'est d'intérêt public et que ça a une incidence importante sur le public, ça on le dit, ça je suis en train de le dire. Alors on va le voir dans.
D'accord.
C'est ce que je suis en train de me dire.
Oui, bon,
voilà, j'ai dit.
Donc, comment vous, est-ce que vous êtes là en train de nous dire que vos amitiés sont plus importantes que l'intérêt du pays?
Mais si c'est le cas, je ne vais pas venir. Je n'ai pas venu vous parler de l'illégalité de l'arrestation de mes camarades.
Okay. Qu'est-ce que vous attendez justement?
Et puis, disons une chose. Ouais. Mes amis, ce n'est pas que eux, c'est pas. Tu es mon ami, non?
Oui, c'est
ça. Non, ce n'est pas comme si j'ai des amis que parmi les militaires, mais pas du tout. Mais j'ai beaucoup plus d'amis parmi les civils que parmi les militaires.
Je n'ai pas dit
que.
J'ai dit seulement vos amis.
Oui, mais c'est, tu peux, quand vous dites est-ce que mes amis sont plus importants que.
En fonction de ce que vous
avez dit. Voilà, plus important que.
Parce que souvent, il faut préserver le secret. Je ne suis pas en train de faire votre.
C'est pas un secret, si vous voulez.
C'est peut-être une éthique chez vous, quoi.
C'est une éthique, c'est tout. C'est une éthique. C'est pas un secret au détriment du peuple, mais pas du tout. Il y a des choses même que vous pouvez régler dans la confidentialité. Et que vous détruisez.
En tant que.
Laisse-moi terminer ça, s'il vous plaît. Et que vous détruisez dès que vous le mettez sur la place publique.
Une dernière question sur le sujet.
Et c'est pas moi seul qui fais ça. Oui. Même l'État fait ça.
Oui, vous êtes universitaire, brillante universitaire. Vous êtes aussi. Je n'allais pas dire que vous êtes un avocat, mais quand même, vous défendez la cause des sans-voix. Si aujourd'hui des victimes de ces pratiques-là vous sollicitent, vous. Qu'est-ce que vous pouvez les faire dans les jours à venir?
Mais j'ai déjà fait ce que j'ai toujours fait. Je les conseille, je les oriente. Voilà. Il m'arrive d'en piper mot, d'en parler à ceux qui veulent bien m'écouter. Voilà, au sommet. Ceux qui veulent bien m'écouter, je dis bien. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus avoir affaire avec moi. Il y en a qui ne veulent plus m'écouter. Donc, pour ceux qui veulent m'écouter, je leur en parle. Et il y en a qui vérifient, parfois, qui font des choses. Moi, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai contribué.
Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri de ces pratiques-là, puisque vous
n'avez pas du tout. Mais pas du tout.
Vous connaissez même comment ça fonctionne, le réseau.
Non, mais pas du tout. Pas du tout. Quel réseau?
Non, parce que vous dites que vous en avez. C'est ce que vous avez dit ici.
Non, j'en sais sur quoi?
Vous l'avez dit ici.
Mais sur quoi? Non, moi, je parle à madame. Non, j'en sais sur quoi? J'en sais sur l'arrestation de mes camarades. J'en sais sur le cadre juridique en droit des activités de la sécurité d'État.
Oui.
Et vous en avez parlé. Je vous en ai parlé. Okay. Donc, je vous ai donné des éléments d'appréciation.
D'accord.
Vous voulez que je dise quoi?
D'accord.
Vous pensez qu'il y a un réseau qui existe pour arrêter les gens et je suis parti de ce réseau?
Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça.
Mais faut être clair, parce que c'est les gens qui nous écoutent. Hein.
Je n'ai pas dit ça.
Tous ceux qui nous écoutent ne sont pas là.
Pas aujourd'hui, quand même. Je n'ai pas dit ça. D'habitude, vous êtes très serein, mais ce soir, je vous sens un peu crispé. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Non, mais vous n'êtes pas d'habitude, vous n'êtes pas sur la défensive, mais ce soir, de Boussa. Hein?
Non, peut-être que c'est la nature des questions qui fait ça. Voilà, okay. Sinon, je ne suis pas crispé
du
tout.
Parlons de. Qu'est-ce que vous attendez de la justice dans ça, le rôle de la justice? Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux qui estiment que notre plaie, si la démocratie, notre démocratie, c'est justement la justice. Aujourd'hui, voilà, quel est, vous, si vous devez faire des conseils, ou donner des conseils, donner des orientations à la justice, ça serait quoi?
Que dire qui n'a pas été déjà dit?
Est-ce que vous êtes fier de la
justice? Mais pas du tout. Même les acteurs de la justice ne sont pas fiers de la justice. Voilà. Et même, ils le disent à demi-mot.
Mais ils ne le disent pas. C'est en privé.
Il y a demi-mot. J'ai dit à demi-mot. Vous savez, regardez au Niger ce qui s'est passé. Vous avez vu le communiqué de... le syndicat des magistrats là-bas, voilà, pour dénoncer clairement.
Mais ici, il n'y a pas de communiqué.
Bah, il faut leur poser la question. Peut-être que ça va venir, peut-être.
Il n'y a pas de déclaration, voilà. Il n'y a pas de conférence de presse.
Peut-être que ça viendra.
Sur l'état de la justice.
Peut-être que ça deviendra. Peut-être que pour l'instant, ils ont l'impression que ça n'a pas encore atteint ce niveau.
Est-ce qu'on ne peut pas être aussi les victimes, hein, voilà, de ce désordre-là? Un jour, est-ce que l'histoire ne va
mais
pas
évidemment.
Dire qu'ils n'ont pas joué
mais évidemment, on leur enseigne ça. Mais évidemment qu'ils peuvent en être les victimes. Il y en a déjà parmi eux qui ont été des victimes de ça. Il y a des magistrats qui ont été victimes déjà de ça. Voilà. Et qui l'ont dit haut et fort. Voilà. Qui n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Voilà. Et dans ce pays. Donc, et sur cette transition. Et sur la transition. Donc, oui. Personne n'a l'habitude de la détruire. Et je pense que la justice devrait être... à l'avant-garde de cette lutte pour les libertés fondamentales. Nous sommes, que ce soit l'état d'exception dont je parle, il y a toujours un minimum de cadre juridique qui s'impose, un minimum de droits fondamentaux qui doit être protégé. Et la justice doit être à l'avant-garde de la promotion de cela et la protection de cela. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Okay. On le regrette, mais il faut continuer peut-être à le rappeler. Je me demande même, souvent je me pose des questions, comment un juge peut même supporter l'image de la condamnation d'un innocent?
Ça doit être... Ça
doit dans son être esprit, fait. Dans son cœur. Ouais. Condamner un innocent.
Oui, parce que quand on regarde aujourd'hui...
Même au-delà du juge.
Ils sont nombreux qui sont en prison, qui d'autres... Certains... ne sont jamais jugés, et d'autres... On a reçu une fois le président de la Commission nationale des droits de l'homme ici à Guibou-Boiré qui nous dit que des dossiers disparaissent. Ouais. Et les gens sont en prison, ils attendent d'être jugés.
Ouais.
Et, on continue encore de délivrer des mandats de dépôt.
Malheureusement.
Est-ce qu'il n'y a pas là matière à faire les états généraux de la justice?
Mais évidemment, matière à réformer, matière à tout, à refonder, etc. Et sur ce plan-là, je pense que la commission qui a rédigé l'avant-projet de la Constitution avait fait un très bon travail. Ils avaient proposé, par exemple, de supprimer l'octroi de mandat, de dépôt, je crois, de la main des procureurs. C'était une réforme courageuse. Okay. Malheureusement, elle a été abandonnée par la commission qui a finalisé le projet.
D'accord.
Donc, il y a des velléités, je pense qu'il y a une prise de conscience même. C'est encore timide dans les milieux judiciaires. Que les abus sont en train de devenir excessifs et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut même revoir le texte. Parce que ça, on ne peut pas le gérer si on ne revoit pas le texte. Donc il faut revoir le texte et cadrer rigoureusement l'octroi de mandat de dépôt. Parce que le mandat de dépôt aujourd'hui, je pense, il est dévoyé.
Est-ce qu'il n'a même pas perdu son sens?
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Parce que dès que quelqu'un dit qu'il est interpellé, la seconde qui suit, on entend.
Alors qu'il y a un mandat de dépôt.
On entend mieux. Voilà. Donc c'est regrettable.
C'est très regrettable. Le professeur de droit doit parler. Moi, je ne peux pas être le seul à parler, bon Dieu. Nous avons combien de professeurs de droit ici au Mali?
Mais vous parlez, vous avez
joué. Non, je veux dire, il faut éviter...
Vous n'êtes pas fier de vos amis universitaires.
Mais je ne suis pas fier, je l'ai dit.
Vous avez dit qu'ils sont nombreux.
Mais savez, moi, j'ai dit ce que Mais oui, mais je dis ce que je pense à chacun. Mais oui, tout comme je parle à des militaires, je parle à des civils, à des professeurs, en privé. Mon public, je ne suis pas fier de ce que... c'est qu'ils font. En fait,
vous avez fait beaucoup de publications.
Mais bien sûr, vous le savez. Mais vous le savez. L'intelligence n'est pas en train de jouer son rôle. Le monde universitaire n'est pas en train de jouer son rôle. N'est pas en train d'être porteur de lumière. Pendant ces moments,
Est-ce que vous allez garder le silence ou vous allez toujours continuer à dénoncer, à faire ce que vous faites hein?
Mais écoutez, tant qu'on ne vient pas, m'empêcher de les faire, je pense que je peux utiliser ce droit-là. Moi, dans mes critiques, je pense que je suis constructif. Je ne m'attaque jamais aux personnes des gens. Voilà, je ne suis pas dans l'hyperbole. Voilà, donc non, je suis dans l'analyse, l'observation des faits, et puis je fais des commentaires, voilà, mesurés. Donc, Ibsi Gabignan, oui, Kosebiye. Mais oui, c'est pas moi qui vais le chercher.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut poser la question et le retour à l'ordre constitutionnel, vous l'avez demandé, c'est au nouveau. Ça, c'est quand vous étiez parmi les signateurs de la déclaration du 31 mars. En 2024, vous avez demandé qu'on organise des élections, le retour à l'ordre constitutionnel. C'est toujours votre position ?
Évidemment que c'est toujours ma position.
Ça n'a pas changé ?
Mais pas du tout. Okay. Mais pas du tout. C'est tout ça qui vous montre que le peuple est au-dessus de tout. Voilà. Que l'avenir de notre État, l'avenir de notre nation, l'avenir de nos citoyens importe plus. Okay. Voilà, qu'autre chose, quoi.
D'accord.
Et quand nous disions le 31 mars que la transition était terminée, rien ne nous obligeait à le faire. C'est une prise de conscience. Ce n'est le collectif. Un constat, un nombre de droits, encore une fois, qui se rend à l'évidence. Il y avait un texte voilà, qui limitait la période supplémentaire de la transition à 2 ans et qui venait à échéance.
D'accord.
Il fallait tirer les conclusions. Donc, nous sommes tous cette position, que bien sûr que la transition bien sûr, est terminée. Et ce n'est pas tout ce qu'on a dit le 31 mars. Nous, nous faisons toujours, en tout cas, tout ce dans quoi je suis, c'est constructif.
Okay.
En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas être pris à défaut de ça. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit aux autorités en place, le plan de transition en premier, de convoquer une consultation rapide et inclusive, avec la classe politique, mais aussi la société civile, les responsables, pour définir une nouvelle architecture institutionnelle à l'effet d'organiser l'élection présidentielle pour signer le retour à l'ordre constitutionnel normal. Donc, avec une proposition à la clé, une proposition concrète. Donc, nous voulons un réhabillage juridique d'une nouvelle transition, tout simplement, pour qu'on sorte de cette situation-là de cette zone grise dans laquelle nous sommes.
Oui, mais est-ce que pour vous, quel est l'avenir de cette transition? Les partis politiques sont, les activités des partis politiques sont suspendues, il n'y a plus d'activité des partis politiques. Oui, quel est l'avenir de la transition pour vous?
Pour nous, la transition est terminée. Je viens de le dire. Nous sommes dans autre chose maintenant.
Okay.
Mais et cette autre chose-là dans laquelle nous sommes, nous nous cherchons la détermination, l'identification de cette chose. C'est tout ce qui explique un peu ces. À mon avis, quelque part, ces abus.
Okay.
Et je pense qu'on doit sortir de ça le plus tôt possible. Okay. Le plus tôt possible.
D'accord.
Sortir de ça.
Mmh.
Donc, prendre son courage à deux mains, rébaliser juridiquement cette situation-là, se concentrer sur une activité principale, qui sera l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que les conditions jadis soulevées pour... reporter ces élections ne sont plus.
Okay.
La sécurité, on a entendu le tout en place dire qu'il est sous contrôle. Yeah. C'est elles qui le disent.
Yeah.
Sur le plan technique aussi, nous avons vu ici ce que nos techniciens informaticiens ont fait comme prouesse. Yeah. Donc, qu'est-ce qui bloque? Donc, il faut aller à ça. Yeah. Et je pense que ça va aider ce pays à sortir de cette situation extrêmement stressante, extrêmement difficile pour les Maliens d'en bas, au moins. Voilà. Même si certains d'entre eux ne vivent pas les mêmes difficultés que nous, parce qu'ils sont pris en charge totalement, et bon, ça peut souvent créer une sorte de bruit. Voilà. Donc, mais les populations maliennes, dans leur majorité, souffrent économiquement. Financièrement, socialement, parce que les choses sont liées.
Okay.
Et moi, maintenant, politiquement.
D'accord.
Donc, il faut vraiment sortir de là le plus vite possible. Et je pense que l'un des signes forts sera, entre autres, d'abandonner les poursuites contre nos camarades qui sont injustement détenus, qui ont été injustement arrêtés et injustement détenus.
D'accord, on est à la fin de l'émission. Un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous suivent ce soir.
La situation est grave pour notre pays, je l'ai dit, mais pour également nos libertés fondamentales. Et ce qui arrive un peu à la classe politique et qui ne semble pas même prendre la mesure de la chose, parce qu'elle est toujours polarisée, vous savez, entre les pour, les contre, les nini, puis chacun est assis sur une branche là, et puis il voit la scie venir, et chacun espère que la scie sera pour l'autre. Alors que cette scie-là, elle va ni passer à droite, ni à gauche, ni en haut. Elle va passer en bas. Voilà, c'est le tronc qu'elle va couper. Donc, cette classe politique doit prendre conscience de ça. Donc, si c'est important pour elle, pas les partis politiques, de garder leurs droits politiques fondamentaux, c'est elle de se lever, se battre pour ça. Et pour nous autres, bien sûr, citoyens lambda, qui font l'objet d'arrestations extrajudiciaires, entre autres, avec les politiques, mais avec d'autres, il faut aussi que nous donnions de la voix pour montrer que nous tenons à ces libertés fondamentales. Que même dans une transition, même dans une telle exception, il y a de ces droits qui ne doivent pas être suspendus, qui ne doivent pas être éliminés. Parce que les autorités en place, les hommes qui sont au pouvoir, c'est des hommes d'entre nous. Et on leur donne le bénéfice du doute que leur objectif, c'est de faire le bien commun. Mais nous le savons aussi bien qu'eux, que des erreurs peuvent être commises. Et que tout ce qu'ils entreprennent comme action ne sont pas toujours bien pensés, ou même bien menés. Tout le monde est conscient de cela. Donc, il faut que les citoyens puissent être conscients de ça et alerter quand il le faut, surtout vis-à-vis des abus pareils qui arrivent. Parce que dire que ça arrive à l'autre là, c'est juste attendre son tour. Hein.
Okay.
Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça et qu'ils arrêtent d'opposer la transition militaire, si vous voulez, à la transition civile, la transition militaire au régime passé, la transition militaire à la classe politique. Oui. Je pense que c'est des comparaisons qui ne nous font pas avancer. Okay. La preuve, même ceux qui apprécient cette transition militaire, même ceux qui apprécient, qui ont apprécié la transition militaire ou qui apprécient la gouvernance militaire, je vais dire comme ça, la gouvernance militaire, mais qu'ils se rappellent que cette gouvernance militaire n'aurait jamais existé si les hommes politiques ne s'étaient pas soulevés contre la mauvaise gouvernance de l'époque, d'Ibeka. Okay. C'est parce que le M5, dans sa forme originelle, donc rempli d'hommes politiques, mais aussi la société civile, qui ont dit le ras-le-bol par rapport aux mauvaises pratiques de la gouvernance, qui ont dit le ras-le-bol par rapport à l'insécurité, et qui ont créé une situation où le président a été amené à démissionner, et que ces militaires-là sont arrivés au pouvoir. Mais il ne faut pas que les citoyens, même qui défendent les militaires, oublient ça. Donc, ce n'est pas vrai et ce n'est pas utile d'opposer les militaires aux politiques. Je l'ai écrit quelque part. Tous les militaires ne sont pas des saints. Tous les hommes politiques ne sont pas des vilains. Faites la part des choses. Voilà. Prenons la partie vertueuse des différentes couches de nos populations. Et essayons de faire sortir notre pays de ces difficultés qui, malheureusement, si elles continuent, finiront par l'écraser.
D'accord, merci, docteur Mamadou Konaté, donc analyste politique, universitaire, auteur de 3 ouvrages. Merci, c'était un plaisir de partager cet entretien avec
vous. Le dernier porte sur la vie politique au Mali, des mines anti-innocents à l'origine de la crise malienne.
Oui. Pas encore mon ouvrage,
j'invite les gens à le lire.
La secrétaire n'a pas fait encore fini le livre.
Je vais passer le message. Parce qu'il y a plus de, on m'a dit qu'il n'y a plus de stock ici, mais je pense qu'au prochain, on va vous amener votre.
D'accord, bon, clin d'œil spécial à vos camarades détenus, vous l'avez dit ici, vous avez fait un clin d'œil.
Et si vous permettez, quelque chose m'a échappé, et puis au-delà de nos camarades, il y a d'autres citoyens maliens, d'autres camarades.
Donc, tous qui les ont été arrêtés
avant,
tous les détenus politiques.
Oui, avant cette situation, okay. Donc, je pense notamment à Rose Lavichère, à Rasbach, à d'autres.
Donc, clin d'œil spécial hein, à tous les détenus politiques.
À Etienne Fakabassi-Soko.
Oui, à Etienne Fakabassi-Soko, universitaire, à Rasbach, à Chroniqueur.
À Ben Le Cerveau.
Ben Le Cerveau, à tous hein, les détenus politiques. Et puis, à les derniers. Moulay,
je souhaite qu'il soit libéré. Et je pense qu'il va être libéré.
Moulay Aïdara du PDS.
Absolument,
Moulay Aïdara
du PDS. Si je cite le nom, oui,
Moussa Biko. Tout le reste, hein,
voilà, Samba Koulibaly, Yaya Sangaré.
Merci, voilà. C'était un plaisir. Ouais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelle le programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Au revoir. Liberté.